C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Youpi, c'est lundi et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Et comme chaque lundi, eh bien, on vous offre votre veille social media servie sur un podcast. Je suis Thibaut Tourvieille de Labrou et j'ai le plaisir ce matin d'être accompagné de Monsieur Camille Poignant. Salut Camille.
Salut Thibaut, salut tout le monde. J'espère que tu vas bien, que tu as passé des bonnes petites vacances.
Oui.
En attendant, eh bien, on t'a compilé les dernières actus social media pour toi, pour ceux qui reviennent de vacances aussi, pour une petite brève du lundi, fort sympathique.
Ouais, et j'ai une très très bonne vacances. J'en profite pour dire que vraiment, qu'est-ce que c'est beau la montagne.
La Haute-Savoie, oui, vacances dans la Creuse, c'est moins drôle.
La Savoie, quel beau pays, non, magnifique, super super neige, super beau temps, voilà.
Donc, fromage un peu, t'as mangé du fromage un peu.
Esso au bled, hein, comme on dit.
T'as alors, mangé un peu de fondue.
J'ai mangé raisonnable. Ouais. Non, j'ai mangé sain, j'ai fait du ski tous les jours, c'était vraiment cool.
C'est magnifique.
Voilà. Allez, c'est parti. Je te propose de commencer, Camille. Quoi de neuf dans ta besace?
Eh bien, écoute, je vais te parler d'Instagram. C'est une info qui a circulé un peu. Instagram qui sort une fonction pour masquer ses stories à certains utilisateurs. Alors, il y a quelques temps, Instagram offrait la possibilité de limiter ses stories à une liste restreinte de contacts, les stories amis proches. Aujourd'hui, pour élargir un peu le spectre de ses possibilités de personnalisation, Instagram propose donc de masquer certains utilisateurs. C'est globalement la même fonction, mais à l'inverse, une nouvelle option qui fait donc son apparition dans les paramètres de confidentialité Instagram au rayon story. Ça s'appelle masquer la story pour, et on a la possibilité de sélectionner les personnes qui ne pourront plus voir du coup nos contenus 9/16e. Maintenant, il ne manquera plus qu'à une option permettant de créer plusieurs groupes. On se demandait à l'époque si ça allait être l'évolution naturelle des groupes de
stories. Ouais,
story
un peu à la proche. Google Plus à l'époque. Hein. Je ne sais pas si tu te souviens, il y avait ces espèces de logiques de groupes comme ça. Ouais.
Bah, ça resterait logique d'avoir des groupes de discussion un petit peu pareil. Mais
comme
story...
sur Facebook, remarque, tu as la même chose sur ton compte profil perso sur Facebook.
Donc là, aujourd'hui, on peut en tout cas masquer des personnes qu'on ne veut plus qu'ils voient nos stories. Ouais. C'est vrai que la fonction amis proches, j'ai trouvé ça toujours un peu foireux parce que au final, tu as mis des amis à une période, puis il y a un contenu, forcément tu veux pas que ce soit forcément pour eux, donc voilà, il y avait moins d'évolution. En tout cas, il y a ça qui vient d'arriver.
Ouais, toi tu utilises amis proches ou pas?
Pas trop, juste non. Pour balancer une connerie ou un test en vrai, souvent de temps en temps.
Ouais, souvent pour faire ça, souvent pour faire un test. Nous on l'utilise pas mal à l'agence ça, hein, pour faire des tests, etc. On sait qu'il y a que un petit groupe qui peut regarder.
C'était pas la fonction première, je crois.
Non, pas ouf. je vais vous parler de LinkedIn qui lance un réseau de podcasts.
Ouais.
Voilà, c'est la semaine dernière que la news est tombée. LinkedIn a annoncé le lancement du LinkedIn Podcast Network, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ce network? Eh bien, il s'agit d'une série d'émissions à vocation professionnelle, évidemment. Hein. Il s'agit de LinkedIn. Une série d'émissions en audio, dont une partie sera produite en interne par les équipes éditoriales de LinkedIn. Et puis, une autre partie, la partie principale, on va dire, sera produite par des créateurs de contenu LinkedIn, donc des leaders d'opinion, key opinion leader LinkedIn, des LinkedIn voice, tu vois ces profils-là.
Des managers inspirants.
Voilà, et à ce titre, eh bien, Facebook a fait appel à une quinzaine de créateurs qui sont très établis sur la plateforme pour le lancement de son réseau de podcasts. En gros, que des experts LinkedIn. Je suis allé jeter un coup d'œil à la liste. Alors, c'est surtout US hein, pour l'instant. Mm-hmm. On imagine que petit à petit, ils vont élargir potentiellement cette liste-là. Et on y trouve, par exemple, une émission dédiée au recrutement, une autre liée à la tech, évidemment, une sur des sujets start-up, etc. Donc, il y a tout un panel d'émissions comme ça qui sont proposées, certaines produites en interne, d'autres produites en externe par des key opinion leaders. C'est un peu comme Spotify, hein. LinkedIn joue la carte des contenus exclusifs hein, en s'appuyant sur des personnalités qui sont déjà bien identifiées sur le réseau. Assez intéressant. Les podcasts, ils vont être accessibles où? Eh ben, sur Spotify, sur Apple Podcasts, partout, hein, comme des podcasts classiques.
Oui, donc, c'est une plateforme de podcasts. Hein.
Un vrai network, un vrai réseau de podcast. Et puis évidemment, ils vont plugger tout ça avec les outils de LinkedIn, notamment les nouveaux outils comme LinkedIn Newsletter, on en a rapidement parlé ici dans le Super Daily, et puis faire en sorte que ces voice, hein, donc ces voix de podcast, ces nouveaux créateurs de contenu aient aussi une visibilité accrue sur la plateforme. Intéressant, voilà, j'attends de voir ce que ça va donner, j'écouterai avec intérêt quand même, voir quelle est la qualité de la prod, est-ce que c'est LinkedIn-like, est-ce qu'ils arrivent à trouver une tonalité un peu plus friendly que ce qu'on pourrait imaginer.
En tout cas, ça peut être super intéressant. On parlait de la migration de Clubhouse, de l'évolution de l'audio qui se déplace sur des plateformes pro. Et là, je me demande aussi si c'est pas un peu le remplacement de SlideShare, de toutes ces formations qu'il y avait sur LinkedIn, mais sous format de podcast. Ça peut,
ouais,
être,
bah,
ça peut être intéressant.
Je pense que LinkedIn, ils sont pas idiots. Hein. Ils ont vu cette trend énorme autour du podcast. Ils ont vu comment aussi le podcast est en train de s'imposer, notablement aux États-Unis. Et ils se disent, on peut pas rater ça. D'autant plus que ça s'adresse bien souvent, sont des sujets professionnels. En tout cas, il y a beaucoup de possibilités de ce côté-là. Donc voilà, intéressant, affaire à suivre.
Eh ben, super intéressant. On parlait de podcast et moi, je vais te parler maintenant de TikTok. TikTok qui testerait des formats vidéo de 5 et même 10 minutes après être passé de 15 à 30 secondes puis 8 minutes jusqu'à 3 minutes en juillet dernier. TikTok projette donc maintenant de proposer des vidéos de 5 à 10 minutes selon une étude interne.
Autant dire du long métrage. Hein.
Là, c'est très long. Là, c'est très très long. Alors, c'est assez intéressant. Hein. Attention, je vais annoncer des choses intéressantes. Selon une étude interne, 49% des utilisateurs trouvent que les vidéos plus de 60 secondes sont déjà stressantes. Et un tiers d'entre eux feraient déjà du speed watching, lecture en accéléré, parce que quand ça dépasse les 30 secondes, 35 secondes, c'est trop long pour eux. Aujourd'hui, les vidéos qui performent le mieux sur TikTok dureraient entre 21 et 34 secondes. Donc pourquoi s'intéresser à plus long ? Bah tout simplement pour la moula. Gagner quelques secondes d'attention supplémentaire avec des formats plus longs, c'est des revenus publicitaires en plus. C'est l'opportunité à la plateforme de s'ouvrir à un nouveau type d'annonceur aussi. Et un nouveau type de consommateur hein, qui n'était pas forcément à l'aise avec le format très court de TikTok. En rallongeant ses vidéos, TikTok cherche aussi à attirer des utilisateurs plus âgés qui sont plus habitués au format long, type YouTube, type Facebook. Plus âgés, plus de pouvoir d'achat. La plateforme TikTok, hein, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que 56% des utilisateurs ont entre 16 et 24 ans. Ils ont le problème inverse de Facebook. Eux, c'est une plateforme trop jeune. Facebook, c'est une plateforme trop vieille. Et du coup, pour eux, ramener un peu d'ancienneté, c'est un moyen aussi de vendre plus de choses, d'avoir plus de pouvoir d'achat. Et donc, c'est pour ça qu'ils se projettent sur des vidéos plus longues.
On peut imaginer aussi que ça soit une stratégie, une tactique pour attirer davantage de créateurs de contenu YouTube.
De toute façon, ça fait partie du package. Et ce qui est à voir là-dessus, hein, le risque majeur dans ces choix d'allongement de la vidéo, c'est de voir disparaître le binge-watching sur TikTok. Le fait d'avoir beaucoup de vidéos courtes fait que tu en regardes énormément et tu vas voir les tendances. Et c'est quand même au cœur de la plateforme et au cœur de l'algorithme. Donc, à voir ce que ça peut donner.
Intéressant. Allez, moi, je vous emmène du côté de Twitch. Twitch qui propose désormais un salaire fixe pour les streamers. Voilà. L'objectif principe. Cool. Alors, c'est un nouveau programme que propose Twitch. L'objectif, c'est de garantir aux streamers un revenu stable chaque mois. C'est vrai que globalement, être streamer Twitch, c'est quand même assez précaire hein, comme job. Alors, comment ça marche ? Eh bien, les streamers, ils vont pouvoir décider eux-mêmes de régler le taux de publicité qu'ils souhaitent sur leur chaîne et surtout le montant final perçu à la fin du mois. Donc, en gros, ils vont pouvoir dire dans la plateforme, je sais pas, je veux gagner $100 par mois et pour ça, eh ben, je suis prêt à avoir 2 minutes de pub par heure.
Okay.
Ou je veux $500 par mois et pour ça je suis prêt à avoir 4 minutes de pub par heure. Le système de Twitch, il va se charger en fonction de la base d'audience de moduler automatiquement la volumétrie des publicités sur le compte. Donc en fait c'est lui, précédemment ce qui se passait c'est que c'est toi qui disais bah, je mets de la pub et c'était un peu aléatoire, tu savais pas à quelle fréquence elle apparaissait.
Rentabilité quoi.
Exactement. Là, maintenant, tu vas pouvoir dire bah, je veux, en gros, pousser au max possible. J'ai besoin de thunes. Je suis OK et mon audience est OK avec l'idée qu'il y ait beaucoup de publicité fréquemment ou à l'inverse. J'ai pas trop de besoins. Donc mettez-moi moins de pubs. Ce programme, il s'appelle Ads Incentive Programme et il permet, du coup, c'est ça l'idée, hein, aux streamers de plus avoir à se soucier du nombre de publicités à diffuser parce que jusqu'à présent, c'est un peu ça qu'il fallait piloter. Ni non plus de leur durée. Hein. Il va le faire automatiquement. Et ce gestionnaire de pub, il se charge de diffuser tout ça automatiquement. À noter que par ailleurs, ce nouveau système, eh bien, il va continuer à évoluer parallèlement aux autres modes de rémunération propres à la plateforme hein, qui existe déjà. On pense aux abonnements, on pense aux donations. Voilà, et tout ça va permettre de rapporter un peu plus de budget, un peu plus de moyens peut-être aux streamers pour créer leur contenu.
Ouais, c'est intéressant. Hein. Twitch qui est quand même probablement la première plateforme à s'intéresser vraiment aux créateurs de contenu et la manière de les rémunérer. Et c'est un nouveau pas en avant en tout cas. Ça peut
être intéressant. Moi j'aime bien l'idée. Alors, nous, si vous voulez nous retrouver, hein, on est tous les matins sur Twitch, à Supernatif, n'hésitez n'hésitez pas à venir nous retrouver. On est très loin de pouvoir monétiser aujourd'hui. On est très loin de pouvoir monétiser aujourd'hui. Il faut une base d'audience suffisamment solide et tout le monde n'aura pas accès à cette nouvelle, à ce nouveau programme.
Twitch va nous filer 13 euros par mois par principe, par sympathie. Moi, je vais te parler du groupe Meta. C'est un sujet légèrement hors sujet, comme on dit, qui montre un peu l'habileté du groupe Meta pour attirer les annonceurs. C'est une étude qui a été effectuée par le groupe Meta donc auprès de 10 000 utilisateurs aux US pour essayer de comprendre ce qui peut bien freiner l'achat de véhicules électriques. Alors j'ai vu la news, je me suis dit c'est quoi ce truc, mais finalement je l'ai lu, donc je me suis dit je vais t'en parler. Ça paraît logique. Les analystes qui ressortent de cette étude amènent que pendant la pandémie, les conversations mondiales en anglais sur les véhicules électriques ont augmenté de 240% sur Facebook. Mais alors que cette conversation était à la hausse, plus de la moitié des automobilistes interrogés n'envisageaient pas de passer aux véhicules électriques et les ventes sur cette population cible étaient seulement de 4%. Donc Meta s'est dit tiens, je sais pas pourquoi, il y a un gars qui est en train de faire des stats là-dessus, s'est dit on va faire une étude. Ce qui est habile là-dedans, c'est que cette étude elle n'est pas anodine, elle sert aussi de case study au Facebook IQ pour attirer des nouveaux annonceurs. Elle est vraiment très complète, elle est posée dans ce Facebook business. Les enseignements que Meta apporte aux constructeurs, bien sûr, vous êtes constructeur, on vous apporte des éléments super intéressants pour vous. Ces consommateurs, ils sont beaucoup plus susceptibles de répondre aux messages concernant des problématiques même pragmatiques telles que les coûts de maintenance, la sécurité ou encore la mise à disposition de stations de recharge. Donc il y a des acheteurs pour vos voitures, il y a des gens qui sont intéressés mais vous savez pas vous y prendre. Donc au travers ce cas, ils rappellent à leurs annonceurs que les gens achètent en fonction de ce qu'ils en retirent, non du message transmis par votre groupe. Ils reviennent sur le why des annonceurs. Je trouve le cas très intéressant parce qu'ils sont allés très très loin pour montrer qu'en fait sur leur plateforme il y avait encore des possibilités et qu'il y avait encore des zones vides, des zones blanches pour certains annonceurs.
Ouais, alors ces études Facebook elles sont souvent très bien amenée, assez passionnante parce qu'elle s'appuie sur beaucoup de data, mais elle pose aussi questions. Et on comprend bien pourquoi aujourd'hui Meta est dans la tourmente face à l'Union Européenne qui lui dit non mais attendez, toutes les data que vous avez sur les Européens, il va falloir les héberger en Europe parce que nous on n'est pas très à l'aise à l'idée que vous puissiez accéder à toutes ces données-là et puis en tirer des enseignements. Parce qu'effectivement, là c'est une analyse qui est rendue publique, mais on imagine les centaines d'autres analyses qui ne sont pas rendues publiques et qui sont très précises et qui permettent sans doute de renseigner eh bien, des acteurs privés, des entreprises privées aux États-Unis sur le marché européen ou même, pourquoi pas, des groupes politiques.
Carrément, là, c'est aux US. Alors maintenant, ils mettent les formes, ils précisent la chose, mais c'est vrai que ça va devenir problématique. En tout cas, on voit qu'ils vont quand même très loin pour ces démarches-là. C'est assez intéressant, je trouve.
Voilà, les amis, c'est ce qu'on pouvait se dire dans ce Youpi, c'est lundi ce matin. Si vous souhaitez continuer avec nous cette discussion, eh bien, on vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux, @supernatif.
Sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Twitch, Pinterest, où vous voulez, nous y sommes.
Et puis vous écoutez ce podcast dans votre application de podcast préférée. Un grand merci à vous. N'hésitez pas, si vous êtes sur Apple Podcast, Spotify, nous mettre 5 étoiles avec un commentaire. Ça nous fera chaud au cœur. Et puis, allez, on se cache pas, ça va nous faire un petit coup de pouce algorithmique, ce qui est jamais perdu. Les amis, on se retrouve dès demain, 9h, en direct sur Twitch et Spaces.
Voilà, les vacances sont finies. On sera là en quotidienne. On vous souhaite une très bonne semaine.
Salut tout le monde.
Allez, ciao.
Bye.